18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Amis auditeurs, bienvenue. Oh là là, quel plaisir. J'ai pris du temps à... Je vais vous dire la vérité, chers amis auditeurs, parce que j'ai pas pour habitude de vous mentir et de vous raconter évidemment ce qui se passe dans les coulisses de la radio. Fawzi Loulouche, que vous allez retrouver tout à l'heure, à 18h30, est venu nous gâter avec des gâteaux, des crêpes, des msemen, des tout la totale. J'ai la bouche pleine, j'aurais pas dû, quelques secondes avant l'antenne. Il m'a fait... Fawzi Loulouche, merci infiniment. Mais surtout, merci à qui ? À Farida. Farida, si tu nous écoutes, elle nous écoute ou pas? Tiens, ouvrez le micro, tiens.
Ouais, je pense que oui. Je pense que
elle
oui.
Nous écoute?
Ouais.
Spéciale dédicace à Farida. Ce soir, on lui dit respect. On ne lâche rien, ma chère Farida. Merci pour infiniment pour tout ce que tu as fait. Allez, au sommaire de cette émission, vous le savez, ce qui vous attend pour vendredi, pour clore la semaine, eh bien, tout simplement, nous allons, eh bien... nous consacrer à cette mobilisation qui a rencontré un vif succès. Est-elle historique ? Oui, non, grand point d'interrogation. Nous serons dans une poignée de minutes, vous savez, avec un représentant justement de la RATP qui sera avec nous pour nous parler de la manifestation d'hier. Et il va nous dire justement les coulisses dont la manière dont les choses se sont déroulées. Il s'appelle Ahmed justement Béral, et il représente la RATP. Ensuite, 18h20, eh bien vous, au 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre venir évidemment nous parler de la grève, de la mobilisation. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que cela dure? Est-ce que tout cela, ça peut faire fléchir le gouvernement notamment? Eh bien, on en parlera avec vous sans détour et en toute liberté d'expression. Et puis ensuite, vous savez quoi, les sujets qui ont retenu notre attention, ce sera Fawzi Loulouche, mais également aussi Richie, John, beaucoup de monde ce soir, hein, Jessica Elonguer, Ménade ou Chénir, on va mettre tout ce beau monde qui vont venir et on prendra le temps de décrypter ce qui s'est passé hier. Évidemment, je parle de la mobilisation. 2 millions de personnes selon les syndicats, 1 million 12 selon la police. Et on parlera aussi, vous savez quoi, eh bien de la suite, puisque ils ont décidé, l'ensemble des organisateurs des syndicats ont décidé de reconduire ce mouvement de grève. On connaît d'ores et déjà la date, le 31 janvier prochain, ça y est, ils ont décidé de rebloquer le pays, mais surtout de faire plier, de tenter de faire plier le gouvernement. On parlera aussi du congrès du PS. Olivier Faure, il est vainqueur, clochette. Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'il a remporté le congrès. Vous savez pourquoi ? Sinon la NUPES n'existerait plus, chers amis auditeurs. Alors Olivier Faure, on en prendra le temps de parler de tout ça. Y compris, vous savez quoi, de ces irrégularités, ce soupçon d'irrégularité des militants qui sont enfermés, paraît-il, avec l'urne à la Courneuve. Bon, clochette quand même. Anthony, je crois qu'il n'est pas encore... Non, il a envie de partir en week-end, là. Anto, ça va, Anto ? Bonjour, Anto !
Bonsoir Adil, et ben écoute, j'étais en train d'écouter le retour Paris, c'est pour ça que j'avais le décalage.
Eh ben, donc bien réveillé, tout va bien ?
Ça va super, et toi ?
Bon, super, allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Ahmed Béral. Bonsoir Béral, monsieur Béral, Ahmed.
Oui, bonsoir, ça va ?
Très bien, et vous-même, comment je vous qualifie ? Vous êtes le représentant, évidemment, de la RATP, mais si vous devez vous présenter en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, pour nos auditeurs ?
Mais moi, je m'appelle Ahmed Béral, je suis syndicaliste et machiniste à la RATP au centre bus de forme depuis 20 ans. Je me bats contre les réformes de retraite et tout ce qui va avec.
Eh bien, merci d'être avec nous, monsieur le syndicaliste Ahmed Béral, justement. Hier, grosse manifestation, on parle de 2 millions selon les syndicats, 1 million 12 selon la police. Selon vous, est-ce qu'on peut qualifier d'ores et déjà ce mouvement, cette mobilisation de grève historique, Ahmed Béral ?
Oui, on voit bien que 2 millions de personnes dans la rue qui disent non à ce gouvernement et non à cette réforme de retraite, c'est bien historique, parce qu'en 2019, on avait fait grève aussi, mais là, avec 2 millions de personnes dans la rue, c'est quelque chose de super. Il faut continuer et continuer à se mettre en grève pour continuer cette lutte, parce que personne n'irait travailler 2 ans de plus pour aller mourir au travail, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr. Justement, hier, tout s'est mêlé, hein, en quelque sorte, on parlait pas que de la retraite, on parlait également aussi de l'inflation, on parlait du coût historique, hein, de la hausse des prix, tout ça, etc. Tout ça a été mêlé, c'était une manière aussi de profiter de cet instant, Ahmed Béral.
Bien sûr, en fin de compte, on parle de la retraite, mais la retraite, elle parle aussi de l'inflation. On sait qu'aujourd'hui, payer son loyer, c'est super dur. Acheter une baguette qui passe à 1,20€, bien sûr qu'aujourd'hui... Les petites retraites ont du mal, on va dire, nos parents. Moi, j'habite à Aulnay-sous-Bois, nos parents ont du mal à payer leur loyer, à aller faire les cours. On voit un gouvernement qui dit qu'il faut aller travailler plus. Mais travailler plus, pourquoi? Pour crever au travail. On nous a dit que, comme quoi, les retraites, ils étaient déficitaires. Mais la retraite, elle n'est pas déficitaire. C'est ce gouvernement qui est déficitaire. Quand je vois qu'aujourd'hui, ils proposent 100 milliards pour augmenter le budget de l'armée, pour aller faire des guerres, pour faire la guerre, on trouve de l'argent. Mais pour nos retraites, bizarrement, nous, on devrait aller mourir au travail. Et ça, c'est hors de question.
Hors de question, justement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, franchement, après ce qui s'est passé hier, vous avez dit que c'était historique. Est-ce que, franchement, je vous le dis, est-ce que vous pensez que le gouvernement entend vos messages, entend vos revendications?
Est-ce que le gouvernement entend? Mais en tout cas, il a bien vu qu'hier, il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Il a intérêt à entendre, parce que bientôt, on va continuer le mouvement, il va être de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus de train et plus personne n'ira travailler. Il n'y a que comme ça pour montrer à ce gouvernement que nous, on ne va pas mourir au travail. Et je parle pour tout le monde, que ce soit la jeunesse. Les jeunes, ils ne vont pas travailler toute leur vie pour une retraite de misère et non à la retraite à 65 ans. Ça, c'est hors de question.
Ahmed Béral, je crois que je vais juste faire un petit réglage de micro. Ahmed Béral, justement, vous, syndicaliste à la RATP, vous savez, beaucoup se posent la question, ils disent que parfois ils nous prennent en otage, parfois ils paralysent la France. Vous leur répondez quoi, justement, à celles et ceux qui peuvent penser ça parfois? Nous, moi, j'ai plein d'auditeurs, partout en France, hein, qui comprennent et qui parfois aussi se posent des questions. Vous leur dites quoi?
Mais nous, on ne prend pas les gens en otage, c'est le gouvernement qui nous prend en otage. Quand on voit un gouvernement qui dit qu'il faut aller bosser jusqu'à 65 ans, c'est eux qui nous prennent en otage. Nous, on ne prend personne en otage. Nous, on défend la retraite à tous. Nous, on n'a pris personne en otage. Quand on se met en grève, c'est pour l'avenir de nos enfants, de la jeunesse et de tout le monde. Et de nos petits vieux qui sont à la maison, qui ont du mal à toucher les deux bouts parce qu'ils ont des retraites à 700€. On dit qu'aujourd'hui, on va augmenter la retraite de 1100€. Ça va être net à peu près. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 1100€ net aujourd'hui quand on voit les prix des loyers et l'inflation? Non, nous, on ne prend personne en otage. Et je comprends que les gens qui vont travailler le matin ont du mal quand il n'y a pas de transport, mais c'est pour le bien-être de tous. Et dans 10 ans, on dira merci à la RATP d'avoir fait grève pour défendre nos retraites, parce que nous, on n'est pas là pour mourir au travail. Ouais.
En réalité, Ahmed Béral, c'est quoi qui n'est pas compris? Est-ce que vous regrettez le manque de concertation? Vous regrettez le manque de dialogue? C'est quoi? Ou alors, cette réforme des retraites, elle n'est pas comprise? C'est quoi au juste?
Nous, on a bien compris c'était quoi cette retraite. Hein. Aller bosser jusqu'à 65 ans, je veux dire, j'ai du mal à comprendre qu'une personne pourrait valider ça. On voit bien qu'aujourd'hui, travailler jusqu'à 65 ans, c'est super dur. Si on va parler du BTP, des maçons, des gens qui traînent dans le goudron, dans la route, je veux dire, c'est très dur pour eux. Comment ils vont aller faire pour les maçons, comment ils vont faire à 65 ans pour monter sur une charpente? Non, mais c'est ce gouvernement, il nous prend pour des cons. Ben nous, on leur répond par la grève et par la lutte sur le terrain. Et c'est vrai que ça dérange des gens qui vont aller travailler, mais c'est pas très grave qu'on dérange quelques personnes. Parce que l'avenir nous dira qu'on a eu raison pour bouger pour cette génération des jeunes.
Dites-moi, vous savez, sur le plateau, tout à l'heure, on va débattre et notamment confronter les points de vue sur les sujets d'actualité. J'aimerais vous présenter Fawzi Lellouche, qui est un des leaders des Gilets jaunes, qui veut échanger avec vous. Fawzi Lellouche.
Oui, bonsoir.
C'est Ahmed.
Bonsoir.
Ahmed, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai écouté attentivement ce que tu disais. Bon, y a rien à redire sur ce que tu as dit. Au contraire, justement, on est tout à fait d'accord. On en est conscient. Alors déjà, j'aimerais juste répondre concernant le gouvernement qui laisse la situation un peu se pourrir. Et on sait très bien que c'est pas un gouvernement qui dialogue. Moi, là, j'ai une question parce que j'ai bien compris aussi le fait que de se battre pour les retraites, c'est très très bien. Faut-il encore y arriver? Et on a compris aussi que l'humain était exploité à son maximum et que les gens, quand ils arrivaient en fin de carrière, ils étaient à bout de souffle aussi. Donc, ils avaient une espérance de vie pour les métiers les plus pénibles, compliqués. Mmh. Le vrai problème, c'est que pourquoi pas battre le fer quand il est chaud, et pourquoi les cadres syndicats ont annoncé une journée le 31 plutôt que d'enchaîner là sur une semaine, et on peut tout faire plier rapidement, qu'on fasse pas la même erreur que nous on a fait, à les laisser respirer chaque semaine, à revenir chaque samedi et les laisser aménager, essayer de convaincre des gens, essayer d'endormir les gens, essayer de diviser la mobilisation qu'il a, à mon sens, a pris, et les gens sont dans une grosse dynamique.
Ahmed Béral, syndicaliste de RATP.
Sur la question des grèves saute-mouton, en tant que syndicaliste, je suis contre. Hein. Laisser respirer le gouvernement, c'est hors de question. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, pour que les centrales syndicales appellent à une grève illimitée partout en France. Et les grèves saute-mouton, le 31 janvier, je trouve que c'est trop loin. Les personnes qui se sont arrangées pour dire on fait une grève le 31 janvier, et après, pourquoi pas le 31 août. Non. Là, on parle de vrais sujets, c'est tous dans la rue, et ça, c'est les centrales syndicales. Moi, je ne fais pas partie des centrales syndicales, comme on dit un peu nos bureaucrates. Eux, ils décident entre eux. Et c'est à nous de décider la base d'en bas, de dire on va sur des illimités et tous ensemble dans la rue. Et bien sûr que par rapport aux Gilets jaunes, ce qu'ils ont fait pendant 2 ans et demi, 3 ans, ça a bien fonctionné. Ça a fait peur le gouvernement.
Et pourquoi le 31 et pourquoi le choix du 31 et pourquoi pas une autre date, Ahmed Béral?
Après le 31, moi, j'ai du mal à comprendre. Après, c'est au niveau des centrales syndicales très très haut, et je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis la base même d'un centre-bus, et c'est vrai que nous, on se pose la question, pourquoi le 31 janvier? Pourquoi pas, dès demain ou après-demain, préparer un préavis limité avec tout le monde et partir en guerre contre
Fawzi Lelouch. Fawzi Lelouch.
Ahmed, justement, ce qui fait votre force aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment plus nombreux de ceux qui prennent des décisions et qui, pendant longtemps, vous ont évité d'avoir des avancées sociales, parce qu'ils vous les ont fait perdre par des négociations tronquées. Aujourd'hui, la base, les syndiqués, vous avez la masse. Vous avez été souvent critiqué pour bloquer à plusieurs échéances, comme tu disais, saute-mouton, à différentes périodes. Du coup, ça embête les gens. Vaut mieux le faire une bonne fois pour toutes et le faire illimité, si ça doit être une semaine, 15 jours, mais au moins là ça va avoir un vrai impact, et les gens vont vous suivre. Et comme tu as dit, aujourd'hui on n'est plus derrière des étiquettes, quelque part on essaye de tous se défendre, parce que le simple citoyen c'est ce qui vaut et qui fait foi. Alors il faut savoir aussi que demain il y a une grosse manifestation à Paris. Moi je m'en fous de savoir qui l'organise, quelle étiquette ils sont. Je sais que ça part d'un collectif au départ d'étudiants, suivi par LFI. Je m'en fous que ça soit LFI ou quoi. Ce qui est important, c'est que on lâche pas la prise qu'on vient de prendre, on lâche pas le manche, et on y va, nous, demain. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent la semaine qui vont...
Il veut vous répondre, Ahmed Béral. Ahmed Béral. Ahmed Béral.
Ahmed Béral. Bien sûr, sur cette question de est-ce qu'on prend pas d'étiquette syndicale avant d'être une étiquette syndicale, comme des ouvriers qui travaillons dur le matin sur plusieurs postes. Hein. Et bien sûr que demain, il y a une manifestation qui a été lancée par les jeunes des LFI, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'étiquette. C'est tous dans la rue, tous ensemble, et se battre. Et en 2019, on n'oublie pas que nous, on a fait quand même 2 mois de grève dans la rue.
Oui.
On a quand même fait reculer la retraite.
Ah ouais,
en 2019, j'ai fait 2 mois de grève et on
était là. Hein.
Et ils ont morflé hein, quand même. Hein. Ouais, on a parlé de vous.
Là, on les a soutenus.
Et vous les avez soutenus, vous les Gilets jaunes. Et puis surtout, on était là aussi, la radio. Je me rappelle très bien que quasiment tous les jours on parlait de vous. John Barlou, dans le micro, John, le micro, parce que sinon...
Moi, pour répondre à la question, je pense qu'en fait, pourquoi ils ont choisi le 31, c'est que mon avis. Hein. Mais c'est pour permettre aux dirigeants syndicaux d'exercer une sorte de pression, entre guillemets, pour dire au gouvernement, bon, il faut négocier avec nous, sinon le 31, on va faire une action.
Aussi.
Je pense que c'est ça.
Aussi.
Et c'est dommage, parce que l'action d'hier, il y avait énormément de personnes.
Je dois lancer la pub, chers amis.
Ouais, 2 millions de personnes, mais malgré les transports.
Je voudrais juste, avant de libérer Ahmed Béral. Ahmed Béral, dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, justement, concernant ce combat?
Moi, ce que j'ai à dire à tout le monde, des gens de toute la France qui nous écoutent, c'est tous dans la rue, même qu'on a un petit commerce ou pas, c'est tous dans la rue, et la pression, c'est pas nous qu'on l'a subi, c'est le gouvernement aujourd'hui qui tremble et qui a peur, et c'est tous dans la rue pour se battre, et toutes les manifestations, que ce soit le samedi ou le dimanche,
merci,
en grève, c'est dans la rue pour se battre contre nos retraites et augmenter les salaires à tout le monde.
Voilà. Merci Ahmed Béral, vous êtes le syndicaliste.
Ahmed, votre force à vous, c'est le blocage.
Syndicaliste RATP.
Non, on bloque pas, on fait grève, hein, parce que blocage, c'est interdit.
Ils bloquent pas, ils font grève. Non, merci mais... Ahmed, non, je dois lancer la pub. Ouais, merci oui. Ahmed, on vous retrouvera sur notre antenne très bientôt. Mille merci à vous d'avoir été avec nous, justement 18h15 précisément. Je lance la pub, et puis je voudrais vous entendre, vous, auditeurs, justement réagir à tout ça. 01 53 48 3000, vous êtes très nombreux, et je vous attends. Anthony vous attend au standard, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Ici même dans Les Informés, c'est parti, le standard est ouvert.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
On vous donne la parole pour commenter cette actualité concernant donc la mobilisation. Vous avez entendu le syndicaliste, notamment. Oui, il ne parle pas de blocage, mais il parle de mouvement de grève. Justement, dans la sémantique, comme disait Fawzi Lelouch. Alors, j'ouvre l'antenne, justement, pour venir vous entendre au 01 53 48 3000, chers amis auditeurs. Anthony vous attend. 01 53 48 3000. En attendant, évidemment, je voudrais ouvrir le micro pour entendre John Barlow. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va? Bien dans le micro, hein?
Ouais, je parle bien.
Influenceur, hein?
Ouais, influenceur, gilet jaune en fait.
Gilet jaune.
Je suis un vrai gilet jaune de la première heure.
De la première heure, elle est bon les mecs. Hein. Fawzi Lelouch, que je ne présente même plus, une des figures des gilets jaunes. Comment ça va mon cher Fawzi?
Ça va très bien et puis bonsoir à tous.
Vous nous avez gâtés ce soir. Non mais sérieux, vous nous avez gâtés ce soir. Du miel, c'est... vous nous avez mis aux petits soins. Même non, Philippe, mon collègue à côté, il est venu. Il est complètement... voilà.
Attention,
c'est ça. Absolument.
C'est ça,
voilà. Absolument. Richie Thibault, bonjour.
Bonsoir mon cher Adil.
Comment ça va?
Ah bien, très bien, très heureux d'être ici.
Pour ça faisait longtemps, vous avez disparu ou quoi?
Bah non, me voilà de retour, de vivre.
Vous étiez caché ou quoi?
Non, je préparais mes arguments pour essayer de les étayer et de convaincre le plus de monde possible.
Ah, eh bien. Justement, je voudrais avant, parce que bon, c'est pas le moment, mais je voudrais juste vous entendre réagir sur le syndicaliste RATP, notamment... Bon, ça a du sens quand même ce qu'il dit. Il regrette, lui, que ça ne soit pas plus tôt que le 31, justement.
Non, mais on a pu voir dans les divers échanges qu'on a eus avec les syndiqués qu'ils sont tous frustrés de ce qu'ils ont vécu pendant 4 ans. Mmh. Ils se demandaient pourquoi leur pyramide, leur hiérarchie ne se bougeait pas plus, lançait pas des mouvements parce que, tous les jours, ils sont au front. Tous les jours, ils subissent la même chose que n'importe quel citoyen. Ils sont dans le monde du travail. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les gens qui sont dans le monde du travail qui souffrent. Et si on ne fait rien, un gouvernement comme
Emmanuel Macron... On va ouvrir l'antenne. Tiens, je sollicite nos auditeurs. Justement, vous dites une chose très intéressante, Fawzi Lelouch. Vous dites, c'est pas que le monde du travail qui souffre. J'ouvre l'antenne. Oui. Je sollicite nos auditeurs.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Qui souffre selon vous? Est-ce que c'est tout le monde? C'est les salariés? C'est les travailleurs?
Jeunes.
C'est ceux
que, les jeunes? Qui
c'est qui?
Avenir,
c'est
études,
qui souffre? Quel est quel
les gens
sens,
n'arrivent plus à se nourrir?
Comment voyez-vous cette souffrance? Voilà, ces mères de famille, seules, pas seules.
Les mères de famille, les personnes âgées.
En un mot, le peuple.
Venez, tous celles et ceux qui considèrent que il y a de la souffrance, venez en parler, témoignez justement au 01 53 48 3000. Je vous attends. Vous êtes d'accord avec Fawzi Lelouch?
Moi, je suis totalement d'accord avec Fawzi. Et dans le discours du syndicaliste, moi, je trouve que pour les Verts, ils sont assez jaunifiés. Ils sont bien jaunifiés par rapport aux Gilets jaunes. Il a un discours de Gilets jaunes. Ils ont soutenu les Gilets jaunes. Moi, j'ai plein d'amis qui sont Gilets jaunes et qui travaillent dans la RATP et qui nous expliquent que même eux, ce qui est en train d'arriver est très grave pour eux, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a une jaunification, en fait. C'est pour ça que même aux médias, ils parlent à chaque fois d'une jaunification des luttes sociales, en fait. Parce qu'on a amené quelque chose de nouveau et on n'est pas là à attendre une date, une heure. Mais on veut être tout de suite présent à l'instant T, en fait. Donc Fawzi.
Non, mais on ressent aussi de la frustration chez eux.
Oui,
parce qu'ils ont le sens. Ils comprenaient même pas pourquoi leur hiérarchie ne les faisait pas.
Mais je pense que hier ça a été un marqueur hier, un véritable marqueur de succès hier.
Oui, mais c'est justement
quand on voit ça, c'est incroyable quand même.
Oui,
jamais Adil, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
Oui, mais Adil, dans la rue, il y avait pas que des syndicalistes.
Oui.
Il y avait pas que des syndicats. C'était très large, plus large que les syndicats. C'est-à-dire que aujourd'hui 80% ou 90% de ceux qui vivent dans ce pays souffrent. Et
les Gilets jaunes, ils étaient là?
Oui.
Hier? Oui.
Mais j'ai vu des gens hier que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Par contre, ils sont venus sans gilet, mais ils étaient là. des gens de, mais même de province, de Rennes, du Nord, de partout.
Ce qui c'est que par rapport aux médias qui disent qu'il y avait 80 000 personnes à Paris, moi j'aimerais qu'on me réponde à une question simple. S'il y avait 80 000 personnes à Paris, pourquoi on a fait 3 cortèges? Pourquoi il y a eu 3 manifs qui sont partis de République jusqu'à Nation dans 3 angles, 3 axes différents? Voilà, qu'on me réponde à ça. Donc voilà, les chiffres, il faut qu'ils soient un peu plus sérieux et un peu plus corrects au niveau de la
presse. Mais justement, je me tourne vers un jeune justement, Richie Thibault. Richie Thibault, les jeunes étaient présents ou très peu présents?
Non, les jeunes étaient présents et puis c'est une indéniable réussite. On va d'ailleurs en parler dans la suite de l'émission, il me semble. Mais juste pour conclure sur le syndicalisme, en l'occurrence sur les syndiqués de chez la RATP, dire que d'une part, c'est grâce à eux aujourd'hui si de nombreux conquis sociaux existent, c'est par de nombreuses luttes qui font date. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est le fait que finalement, d'une part, c'est un combat absolument nécessaire qu'ils mènent et qu'ils sont courageux de mener. Et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement les soutenir et créer une dynamique sociale plus large pour faire face aux problématiques qui débordent et qui dépassent la réforme des retraites. Parce que la réforme des retraites...
Mais est-ce qu'ils étaient présents hier pour défendre ça?
Les jeunes étaient effectivement présents et j'espère qu'ils le seront bientôt.
Pas suffisamment.
Alors, au niveau des facs, le problème, c'est que si tu veux, la rentrée n'a pas encore eu lieu. Elle aura lieu prochainement et je pense que les jeunes rejoindront massivement ce mouvement. Il y a de nombreuses assemblées générales qui vont avoir lieu et qui vont se tenir dans la semaine qui vient. Donc, moi, ce en quoi je crois, c'est l'auto-organisation. Parce qu'à travers l'histoire, les grandes luttes syndicales, elles n'ont pas réussi grâce aux directions syndicales. Elles ont réussi grâce justement à ces gars de la RATP qui se sont auto-organisés, grâce à ces jeunes qui, en mai 68, sont sortis de leur propre chef dans la rue. Donc, si le peuple veut se faire entendre, si les syndiqués, les gilets jaunes, les jeunes veulent se faire entendre, ce sera par l'auto-organisation populaire qui sera le seul manière de faire la volonté systémique.
Bon, bah écoutez, en tout cas, si ça vous parle, justement, 0153483000, je vous attends. On va retrouver tout de suite le Quoi de Neuf, vous le savez, avec Michel Taube, qui, lui, est le éditorialiste, d'abord, dans les médias, mais également aussi le fondateur d'Opinion Internationale, un média en ligne que je vous invite à aller, évidemment, regarder, jeter un œil, donc, et regarder tout ça, puisque lui aussi, il a couvert les manifestations et la mobilisation d'hier soir. 0153483000, évidemment, s'il y a des paroles de jeunes, je voudrais aussi vous entendre, parce que les jeunes... On l'a toujours dit, hein, cette mobilisation, elle a un autre parfum lorsque la jeunesse s'en empare. Hein, on le sait, ça c'est historique et justement, oui, vous dites-moi.
Oui, compléter ce qu'il disait Richie, c'est que je sais de source sûre qu'il y a des collectifs de jeunes et dans les universités qui vont dès la semaine prochaine, parce qu'il y avait beaucoup de partiels cette semaine, pour s'intégrer directement à toute la mobilisation qu'il va y avoir.
Dès mardi dans ma fac.
Voilà, donc plus, tu vois, c'est source sûre, et je le sais d'autres sources qui est un peu interposée.
Fawzi Lelouch, il est bien renseigné. Allez, c'est parti tout de suite, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec, vous le savez, comme chaque vendredi. Et les vendredis, eh bien, c'est Michel Taube. Bonsoir, mon cher Michel Taube.
Bonsoir, mon cher Aldil, et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Rappelons-le, vous êtes éditorialiste, mais également aussi le fondateur, directeur de l'Opinion Internationale, le média en ligne. Dites-moi, vous avez décidé de parler de Le Pen à Dakar. Pour quelle raison?
Alors écoutez, je suis très très en colère. Je suis très très en colère, très déçu. Moi qui suis très attaché à l'amitié entre la France et l'Afrique, d'apprendre que le président de la République sénégalaise, le Sénégal qui est un pays très proche de la France, a reçu Marine Le Pen, je vous avoue, que je ne comprends pas. D'ailleurs, j'ai même du mal à y croire. Il n'y a pas, à ma connaissance pour le moment, de photos de la rencontre entre le président de la République sénégalaise et Marine Le Pen. Mais je trouve que, franchement, s'il est confirmé qu'il l'a rencontré, je vous dis, j'ai du mal à le croire, je trouve ça bien dommage. Marine Le Pen, hier, n'a pas osé aller dans les rues de France où vous aviez des centaines de milliers de Français qui se battaient contre la réforme du régime des retraites, alors qu'elle-même, de façon très démagogique, est partisane de la retraite à 60 ans. Elle n'a pas osé y aller et je pensais qu'elle était emmurée dans son bureau de Saint-Cloud. Eh ben non, elle est au Sénégal, elle est à Dakar et elle a même rencontré le président de la République. Je trouve ça bien triste. Et pourquoi je trouve ça bien triste? Parce qu'en fait, ça va lui donner une légitimité, une crédibilité qu'elle cherche depuis des années et des années auprès des dirigeants de ce monde. Macky Sall, actuellement, il est le président en exercice de l'Union africaine. Et le président en exercice de l'Union africaine reçoit Marine Le Pen la fille de son père.
Ouais.
Franchement, je trouve ça bien triste, je trouve ça bien dommage, et je trouve que c'est une erreur stratégique qui a été commise. Pour elle, c'est une très grande victoire, c'est une grande légitimation, ça participe de sa banalisation, mais que cela se passe à Dakar, honnêtement, dans un pays si ami, si proche de la France à bien des égards, je trouve cela bien triste. Et je tenais à le dire à l'antenne de Beurre FM.
Et vous avez bien fait de le dire, effectivement. Et c'est vrai que rares sont les moments où vous êtes très, 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 parce que vous avez mis grossi le trait, hein, très, très, très en colère.
Ah oui, non mais franchement, moi je trouve ça très triste. Je serais très curieux de savoir ce qu'en pensent les auditeurs de Beurre FM. Est-ce qu'ils trouvent normal qu'un dirigeant africain reçoive Marine Le Pen? Le Pen.
Hein, eh bien écoutez, on ouvre l'antenne et on entendra les auditeurs 01 53 48 3000. Un petit mot sur justement la mobilisation d'hier, elle est historique, mon cher Michel Taube?
Oui, je pense qu'elle était très 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 importante. Et d'ailleurs, dans le prolongement un petit peu de ce que je viens de dire, quel paradoxe de voir que les deux candidats à l'élection présidentielle qui sont arrivés au deuxième tour n'étaient pas en France au moment où la France des villes, des petites villes, parce qu'en fait, ce qui m'a le plus impressionné hier, c'est que c'est dans les petites villes de France qu'il y a eu le plus de manifestants. Donc c'est vraiment la France des périphéries.
C'est exactement ce qu'on a dit hier, effectivement, dans les petites villes.
C'est la France délaissée qui est descendue dans la rue, et quelque part c'est une forme de renouvellement du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'encore une fois, c'est cette France qui fait tenir le pays, cette France des premiers de cordée, de ceux qui se lèvent tôt, c'est eux qui sont descendus dans la rue, alors surtout dans les services publics, surtout dans les entreprises publiques, évidemment, mais ils étaient quand même extrêmement nombreux, et je pense qu'au-delà de la question des retraites, c'est le coup d'envoi d'un bras de fer. Grosso modo, c'est la troisième mi-temps de l'élection présidentielle, et je pense que ça va chauffer très fort dans les prochaines semaines dans notre pays.
Bon, ben écoutez, merci pour votre billet d'humeur, votre édito, comme chaque vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end, mon cher Michel Taube.
À vous aussi et aux auditeurs de Beurre FM.
Merci à vous, 01 53 48 3000. Je voudrais vous entendre partout en France. Venez, justement, nous livrer votre point de vue, votre opinion. À tout de suite, ne bougez pas, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h39, si vous venez de nous retrouver, sachez-le. Chers amis auditeurs, Les Informés, tout de suite les auditeurs, quand même, j'ai quand même pris entre quelques-uns. Il y a Bilal, Bilal est au 01 53 48 3000. En attendant, le face-à-face.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Je vous donne la parole, justement, Anthony vous attend au 01 53 48 3000. Mais en attendant, 18h40, justement, beaucoup, beaucoup d'appels. On va les prendre. Allô, bonsoir.
Allô?
Oui, bonsoir, c'est Bilal?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, donc, Bilal, vous nous appelez de quelle ville?
Du Gentilly.
Gentilly.
94.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Bilal?
Moi, je suis responsable d'équipe informatique.
Eh bien, on vous écoute, Bilal. Alors, dites-nous tout.
Donc, j'appelais pour bien... c'était surtout pour dire aux auditeurs et aux personnes du plateau que, bien évidemment, lorsqu'il y a une grève, c'est toujours difficile pour tout le monde. C'est un sacrifice pour ceux qui la font et ceux qui la subissent.
Oui.
Mais ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui sont contre la grève, il faut qu'ils comprennent que tous les acquis que nous avons, c'est-à-dire les 35 heures, les 5 semaines de congé par an, la retraite justement à 62 ans, tous ces acquis ont été obtenus avec la grève. Donc s'il n'y avait pas des gens qui luttaient comme ceux qu'on est en train de critiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui prennent le métro, qui sont pas contents de prendre le RER, ils le prendraient tous les jours, ils n'auraient pas de congé. Ce sera pas des semaines de 35 heures, ce sera des semaines de 50 heures. Il faut que les gens comprennent.
Exact, donc, c'est bien de le rappeler, c'est vrai. Vous avez raison.
Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi savoir que les gens, ils vont pas se réveiller comme ça et dire, bon, il fait un degré, je vais aller dans la rue manifester et je vais faire une grève. Déjà, mon salaire, il est bas. Et en plus, en faisant ma grève, je vais toucher encore moins. Non, les gens, s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont à bout. Vous savez, avant, et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la France, c'est un pays qui a été construit, la France moderne d'aujourd'hui. La République que nous avons, elle a été arrachée aussi. Cette République, on la doit aux gens qui ont fait une sorte de grève jusqu'à son paroxysme, manifestation jusqu'à son paroxysme, et qui était la Révolution. Sinon, on serait encore dans un système encore plus totalitaire. Et d'ailleurs, en parlant du roi, ceux qui connaissent l'histoire savent que Louis XIV, sur ses canons, mettait ultima ratio regum, qui veut dire le dernier argument des rois. C'est-à-dire que quand il négociait avec ses voisins européens et qui n'arrivaient pas à s'entendre, à la fin, il avait son dernier argument, c'était les canons. Et aujourd'hui, le peuple, c'est pareil. Ça fait là, il y a eu les gilets jaunes en 2019. Ensuite, le gouvernement, il a eu 2 ans pour réfléchir, pour faire des bonnes réformes et pour comprendre son peuple qu'il a élu quand même, pour être au service du peuple et au service de la France. Et ces 2 ans, non seulement il n'a pas compris, mais en plus, il a fait encore pire. Donc aujourd'hui, ce qui a arrêté les gilets jaunes et les manifestations, c'est le Covid et le fait que les gens ils deviennent bornes, ils perdent leurs mains, ils perdent leurs pieds. Maintenant, quand ça va repartir une deuxième fois, il faut faire attention parce que là, ça risque vraiment d'être très, très, très gros. J'espère que ce gouvernement, il va comprendre, il va faire une réforme de sa réforme parce que sinon, là, déjà, 1 degré, 0 degré, les gens sont dehors. Quand les beaux jours vont arriver, il y aura toute la France dehors. Je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment vous.
C'est pour ça que le gouvernement a appelé justement à plus de. À moins de mépris, moins d'arrogance et à. Voilà.
Bien sûr, j'écoute les infos, je sais, mais les gens, ils n'attendent pas des politesses. Ils attendent un vrai recul du gouvernement, parce que le gouvernement, moi, parce que je sais que vous recevez beaucoup d'hommes politiques et que BFM, votre émission est très écoutée. Il faut qu'ils comprennent que lorsque quelqu'un est élu, il est quand même élu au service du pays, au service du peuple. Il n'est pas élu au service du MEDEF ou des grandes fortunes, parce que quand il y a eu le conflit, par exemple, avec Total, et que Total a commencé à faire grève, M. Bruno Le Maire, quand il parlait, on dirait qu'ils avaient envoyé leur représentant, leur avocat qui venait défendre le Total, les actionnaires de Total à la télé, alors que c'est le ministre du peuple français. Et donc voilà, je voulais juste dire ça et je vais vous laisser débattre.
Merci. Bilal, merci pour cette plongée historique. Hein.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Allez, c'est parti, le face-à-face 18h45. Vous continuez de nous appeler au 0153 48 3000. Ça, c'est votre numéro. Vous nous appelez quand vous voulez. On est ensemble jusqu'à 19h30, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Exceptionnellement, ce soir, nous sommes 5 pour parler de la grève, pour parler de la mobilisation. C'est tellement historique, évidemment, que je ne pouvais pas m'empêcher de retrouver tous ces leaders d'opinion qui sont avec nous, ces débatteurs influenceurs. Fawzi Lellouche, bonsoir, rebonsoir.
Bonsoir.
Leader charismatique, justement, auprès des Gilets jaunes, John Barlou, influenceur de première heure, il me semble-t-il, des Gilets jaunes. Bonsoir.
Bonsoir.
Celui qu'on retrouve, vous êtes chez vous maintenant, Ménad Ouchénir. Hein.
Merci pour l'invitation.
Vous êtes chez vous là. Ah, vous vouliez vous confronter à David Libinski de l'avocat, mais ouais, il a eu un empêchement.
Non, mais
il a pris sa place d'ailleurs. Il a pris sa place.
C'est le siège de David Libinski. J'en prendrai grand soin.
Attention, maître Libinski, il faut en prendre soin. Parce que lui, il a ses manies.
J'ai déjà vu dégager quelqu'un de ce siège pour s'y mettre.
Vous avez vu comment il dégage les gens. Il est fou ce maître là. Il est cet avocat. Il a éjecté. Il lui dit, sors de ce siège. Là, c'est ma place.
Il est beaucoup plus courtois que ça, vous savez. On prend soin de son siège et de son micro, et puis une prochaine fois.
Vous êtes aussi bon que Maître Limeskid ?
On n'est pas aussi bon que Maître Libeskind. On s'en rapproche.
Vous n'êtes pas du tout. De toute façon, vous ne partagez pas les mêmes opinions déjà.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bon en partageant des opinions différentes.
Ouais. Absolument. Voilà. Bon, je vois que vous vous êtes régalé avec les MSMN aussi. Hein,
oui, merci beaucoup.
Apporté par Fawzi Lellouche.
Ouais, ça.
C'est Farida. Hein. C'est,
ouais.
Elle nous écoute, Farida ? Oui, bah, vous pouvez la remercier quand même.
Merci Farida. Merci et puis ça me rappelait, Farida. Ça me rappelait ce.
Merci pour le goûter, Farida.
On s'est régalé. Puis ça me rappelait ceux de ma mère, donc Fatima. Donc
ouais, Fatima, c'est voilà. C'est bon. Hein.
C'était bon, un double titre. Voilà.
Ah, je peux vous dire, c'est frais, aussi. C'est bon. Voilà, on s'est régalé. On n'en a fait qu'une bouchée, Farida. On peut vous le dire. Un jeune revenant, justement.
Bonsoir Adil. Je suis ravi d'être ici.
Thibaut, ça va ?
En écoutant des gars comme Bilal, qui pour moi incarne les Français.
Bilal, l'auditeur.
Auditeur, tout à fait, qui sont pétris de lucidité, qui aujourd'hui sont conscients des enjeux qui sont les nôtres. Donc j'ai hâte d'en débattre ce soir à vos côtés. Ouais. Et je vais tâcher, et mon ami David Libinski m'a missionné pour cela, de faire écho aux opinions qu'on partage tous les deux.
Faut pas lui donner le micro, lui, parce qu'après il est là. Il est parti, c'est le mec qui s'empare, c'est un vrai politicien. Il prend le micro, il l'arrache, il le. Non, tu me le laisses, je vais plus le lâcher. Je vais plus le lâcher. Je suis ravi de ce plateau, vous savez pourquoi ? Parce que, franchement, c'est rare de retrouver deux jeunes, même génération. Mais elle est élue, hein. Elle aussi, elle, c'est une grande galop, Lucien. Jessica Elonguer, élue à Creil. Ça va, Jessica?
Ça va super, et vous?
Tout va bien?
Oui, ça va super.
Vous avez aimé les petites semaines, là?
J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré, vraiment, pour le coup. Merci.
Ouais. Merci, Farida.
Merci, Farida. Farida.
Ouais. C'est, eh ben, c'est
on
parti.
On vous remercie tous d'avoir partagé ça, parce que c'est important. Ouais. On disait ça, Dakar, c'est important.
C'est important. Ouais. Bah, c'est important, plus il y a de gens, mieux c'est, hein, vous savez.
Exactement. C'est, exactement. C'est le but de ça, justement.
Et ben voilà, et ben, écoutez, qu'il soit porté.
Et profitable.
Et profitable. Ouais. C'est parti, messieurs, le tout premier sujet, c'est celui de la retraite, la mobilisation qui, évidemment, on le disait, est-ce qu'elle est historique ou pas du tout? On parle d'1,12 million selon la police, mais 2 millions selon la CGT. Alors justement, cette manifestation, est-ce que c'est un test réussi pour à la fois les opposants, pour les syndicats, pour les manifestants, bref, pour tous les corps de métier? On entendait tout à l'heure le syndicaliste RATP qui disait que c'était réussi. Tiens, on va commencer par Ménad Ouchenir. Je voudrais vous entendre.
Oui, alors la mobilisation, les chiffres, effectivement, ça varie de 1 million à 2 millions. Donc j'imagine que la réalité se situe entre les deux. Mais au-delà des, en France, hein, et au-delà des seuls chiffres. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas tellement s'il y a les chiffres des Outre-mer, parce qu'en Outre-mer également, la mobilisation a été importante. Donc je n'ai pas regardé le détail. Voilà, donc, premier point. En revanche, ce qui serait intéressant aussi niveau chiffres, c'est de connaître le niveau d'adhésion. Parce que tous ceux qui étaient, on va dire, favorables à ce mouvement n'ont pas tous été dans la rue. Mmh. Pour moi, c'est plus ce chiffre-là aussi qui
Là, ils sont nombreux. Hein.
Ensuite, d'un point de vue purement mobilisation, je dirais, c'est une manière, j'adresserais plutôt un satisfecit, moi, de manière générale à cette mobilisation, dans le sens où, moi, je trouve que le fait de l'avoir annoncé avant, par exemple, ça a pu permettre de limiter grandement l'impact sur le quotidien de beaucoup, alors, franciliens, puisque nous, on est très transport ici, mais aussi de Français en général. Beaucoup ont pu prendre leur disposition. Alors, il y a eu des moments de galère ici ou là, naturellement, comme toute grève en génère. Mais celle-là, genre, tout le monde a été réglo, tout le monde a joué le jeu. Les syndicats l'ont annoncé avant, le gouvernement
et comme disait Michel Taube tout à l'heure, y compris dans les petites villes qui étaient laissées pour compte.
Oui,
hein.
Mais voilà, on a limité.
C'est là où justement il y a eu un.
On a limité. Moi, je trouve que c'est un succès dans le sens où on a limité la gêne pour la population, y compris pour ceux qui étaient finalement pour la réforme, parce qu'il y en existe, mais aussi les mobilisés et les grévistes, mais les mobilisés en général ont été entendu de ce que je vois depuis ce matin. En tout cas, au gouvernement, il n'y a pas de, comme on a pu le voir par le passé, de fin de non-recevoir ou de quelle réaction de négation. Au contraire, j'ai l'impression que, en tout cas, le premier round, si on compare ça à un combat de boxe, est en faveur effectivement du mouvement. Maintenant, ben, vous savez, je suis un légitimiste, donc il y a un parlement, etc. Maintenant, faut que ça se traduise dans les amendements, faut que ça se traduise dans la loi qui va passer, puisque c'est pas encore.
C'est bien parce que vous incarnez évidemment là, c'est là que ça se passe. D'autres qui disent que non, c'est la rue où ça se passe.
Ça se passe partout, mais à un moment, c'est une chaîne. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un maillon de la chaîne qui pète.
Tiens, je vais entendre la seule voix féminine qui est avec nous, Jessica Longuer.
Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. De toute façon, il va falloir que ça se matérialise à travers le pouvoir politique et l'incarnation des élus. Donc, si à un moment on a nommé des élus, c'est bien pour faire passer des lois, faire voter des lois. Évidemment, là, aujourd'hui, on parle d'une réforme qui n'arrange personne. Et j'espère en tout cas que cette mobilisation fera que, ben, finalement, les personnes puissent se rétracter et puissent, du coup, changer un peu toutes les ambitions.
Si je puis me permettre.
Bien sûr, allez-y, Richie, Thibault, on fait un tour de table, c'est là, on est là pour ça. Hein.
Non, mais pour réagir en étant assez clair, court et concis, les trois impératifs du journalisme, mon cher Adil, dire que simplement, déjà, cette mobilisation, elle s'inscrit, oui, dans l'histoire de France, elle y est, parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de France, du progrès social, des luttes pour l'émancipation. L'histoire populaire des Français, c'est ça. Parce que les Français qui sont en bas de la pyramide sociale, à savoir la majorité qui galère, eh bien, c'est parce qu'ils se sont levés.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est ceux qui galèrent seulement?
Mais ceux qui galèrent,
c'est pas que. Je crois qu'il y avait des patrons hier. On a vu des gens. Moi, j'ai vu le témoignage. Absolument, il y avait les professions libérales qui étaient représentées. Vous avez du privé. Vous aviez la police, vous aviez les pompiers, absolument. Vous aviez...
Quand je dis que ceux qui galèrent, c'est ceux qui constituent le bas de la pyramide sociale face à ceux qui sont tout en haut de cette dernière. Et l'histoire de ces gens-là, c'est le fait d'être debout face aux offensives du pouvoir. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'était une très belle mobilisation pétrie de fraternité qui s'oppose à cette vaste fumisterie qu'est la réforme des retraites. De manière très factuelle, elle ne se légitime par aucun argument économique. Et tout le monde le sait, les gens ne sont pas dupes. Aujourd'hui...
Je vois Ménad qui secoue sa tête dans tous les sens.
Macron aujourd'hui dit que l'histoire des retraites, c'est 10 milliards, 20 milliards à combler. En réalité, il annonce un plan sur cette...
Mais il faut bien la faire, cette réforme des retraites, mon cher Etchi.
Il annonce...
Vous êtes jeune, vous avez 18, 19 ans.
Il annonce 400 milliards.
Quand vous allez commencer à avoir un pied dans le monde professionnel.
Mais justement, moi j'ai un pied dans le monde du travail, je travaille dès 18 ans et je vais être impacté par cette réforme. Macron, il annonce un plan...
Vous irez à la retraite plutôt. chaud.
Il annonce un plan de 7 ans sur
avec les points, il peut acheter
400 milliards dans l'armée. Il a également un rapport d'Oxfam qui vient nous dire qu'il n'y a jamais eu autant de bénéfices dans le pays, qui suffirait 2% de taxes pour combler le déficit de la réforme des retraites. Donc moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'on prend les gens pour des imbéciles, tout simplement, et je le dis avec beaucoup de gravité. Et moi, je pense que une
prendre les gens pour des imbéciles, je suis pas sûr.
Une réforme qui soit juste. Eh bien, ceux qui ont commencé à travailler, par exemple, entre 15 et il y en a certains, certes très peu, et 18 ans avec cette réforme.
Mais là, vous êtes d'accord, on prend les gens pour des imbéciles, ce que dit Richie, Thibault.
Quand j'entends effectivement ce niveau d'argumentation, je me dis que j'ai vieilli.
Ouais.
Et que du coup la sagesse est plus d'accord. grande chez moi
sur le plan économique, comment
aujourd'hui. Donc effectivement, je pense pas que ce soit manichéen comme positionnement, qu'un positionnement manichéen et contre-productif là-dessus. On a des arguments qui s'opposent puisque on a par exemple le Conseil d'orientation des retraites qui était parti sur des hypothèses relatives à la durée de vie et l'espérance de vie des Français, parce que jusqu'à récemment, l'espérance de vie progressait de manière voilà.
C'est la bonne santé.
Je vous interromps deux secondes. Oui. L'émission marche tellement bien qu'il faut encore faire de la pub.
Eh ben c'est oui. Donc il a gagné sa vie.
Et Anthony qui me rappelle, ça fait à plusieurs reprises là, pour pas qu'on se mette en retard. Allez. Pub, mais là elle sera pas longue. On se retrouve là vraiment. Ne bougez pas. Hein. Restez avec nous, chers amis auditeurs. C'est dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Et les 18h55, Les Informés, c'est avec Fauzi Lelouch. J'ai failli dire Fabrice, t'as vu?
T'as vu, ouais.
C'est un problème, ça m'échappe, ça a failli m'échapper.
Tu manges du miel encore.
Manger du miel, exactement. Ouais. John Barlow avec Mena Douchenir, avec Richie Thibault et enfin avec Jessica Elonguer. Justement, Richie Thibault vient d'art. Nous amener sur le plateau, là, dans Les Informés, un débat qui est intéressant sur cette histoire de la retraite. Donc, quand on vous écoute parler, effectivement, il est excédentaire, c'est ça ?
Non, je dis qu'on peut faire beaucoup si les décideurs politiques ont du courage, c'est-à-dire prendre l'argent où il est. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le pays. Les records du CAC 40 explosent.
Alors pourquoi on fait ça ?
Bernard Arnault est devenu l'homme le plus riche du monde.
Pourquoi on fait ça ?
Parce que c'est une volonté idéologique et dogmatique. Monsieur Macron a été placé par les gens les plus riches du pays.
Mais une fois que vous avez dit ça, comment on s'en... Une fois que vous avez dit ça, Richie Thibault, comment vous voulez-vous que, comment dirais-je, que cette réforme des retraites soit comprise ? C'est pas possible.
Roosevelt aux États-Unis, c'était un anticapitaliste. Et c'est un communiste, non, il a taxé à 80% les plus riches, les 1%. Donc c'est tout à fait possible.
On a vu comment ça a tourné. Hein.
C'est tout à fait possible aujourd'hui de prendre 2%. 2%, oui. C'est rien.
Ménade.
2%. 2% pour financer la retraite à 60 ans pour tous, pour les hommes, pour les femmes.
Mais ça,
qui
c'est utopique, cher ami.
Au travail. Eh bien, allez dire aux femmes qui font le ménage, allez dire aux femmes et aux hommes qui mettent la main dans la mer, désolé d'être trivial, qui vont travailler alors qu'ils ont le dos cassé à 50 ans. Moi, j'ai un oncle.
C'est pas faux.
Moi, j'ai un oncle qui travaille dans les vignes.
C'est vrai.
À 50 ans, il a deux doigts de perdre la vue parce qu'il a été exposé à des produits chimiques. C'est dans la pénibilité, ça, de M. Macron et sa réforme ? Non. Donc les gens aujourd'hui...
Mais ils en tiennent compte de la pénibilité, justement.
Mais non, non. Aujourd'hui, ce qu'il veut, Macron, avec cette réforme, c'est quoi ? Je vais vous le dire. Alors qu'on me taxe de ce que l'on veut, c'est le système de retraite aux mains du privé, de la capitalisation, des fonds de pension privés. Et moi, je le dis à ma génération...
Aux mains du privé, la réforme des retraites ?
Non, non. Et aux États-Unis ?
Mais non !
Aux États-Unis, c'est comment ?
Mais non ! Là, vous partez loin.
Aux États-Unis, c'est comment ? Au Royaume-Uni, c'est ce que prévoient les orientations européennes. L'Europe, vous savez quoi ? Elle est gérée par ce qu'on appelle la méthode.
Du privé, la réforme des retraites.
Non, mais l'Union
ça va loin quand même.
Non, mais l'Union européenne, elle est gérée par quoi ? C'est factuel, hein, les gens peuvent aller vérifier. Par la méthode ouverte de coordination, qui est une méthode qui est utilisée pour faire passer, notamment en France, de manière non coercitive, la réforme des retraites. Et les orientations européennes disent quoi ? Disent qu'elles doivent laisser plus de mains, plus de place au privé, et ça passe par des logiques de rentabilité et de maximisation des profits.
Avec les PE, totalement. Avec les percours.
Bon, Ménade, oui, et ensuite, je distribue la parole. Ménade.
Oui, je vais essayer. Si vous voulez. Court pour que la parole effectivement puisse circuler entre nous. Je pense très simplement et très humblement que ça peut pas être les retraites en particulier un sujet qui soit entièrement soumis à l'idéologie, qu'elle soit ultra-libérale d'un côté ou marxiste-léniniste de l'autre.
C'est pas marxiste-léniniste, hein, c'est des économistes, monsieur, universitaires.
Le marxisme, c'est un courant économique. Je sais que ça fait.
C'est un courant économique, exactement.
J'ai eu mon bac économique, ouais.
Mais je crois que ça
n'a pas changé.
Ça n'a pas changé, non.
Donc, effectivement, c'est un courant économique. C'est en ce sens que c'est une doctrine économique.
Bah, vous avez des économistes qui sont du courant marxiste.
Sur la dimension, parce que je parlais tout à l'heure de légitimisme. Désolé d'utiliser des termes barbares, mais on a eu en 2017 une élection présidentielle suivie d'une élection législative. On a eu en 2022 une élection présidentielle suivie d'une élection législative. Dans les deux cas, alors qu'on le veuille ou non, Emmanuel Macron a été élu, puis réélu et Emmanuel Macron. Non, mais alors, il y a un truc qui s'appelle la démocratie.
Oui, mais on ne va pas revenir toujours sur ces chiffres.
Non, mais combien, c'est intéressant de le dire.
Pendant, oui, mais bon, il a été élu, il est chef de l'État.
C'est toujours comme ça. Le légitimisme, c'est qu'à partir du moment où des gens renoncent à voter, de toute façon, ils laissent la place à ceux qui ont voté. Et donc, dès lors qu'ils ont voté, le résultat de l'élection, lui, est incontestable. On est encore dans une démocratie, j'ai envie de dire, fonctionnelle, au sens où on n'a pas, comme on peut le voir dans d'autres démocraties plus fragiles, des urnes bourrées ou des choses comme ça. Là, c'est clairement, il n'y a pas eu de recours particulier là-dessus. Il a été élu. Et il ne s'est pas caché, je vais vérifier quand même un peu avant de venir. À l'époque, il parlait de 65 ans.
C'est ça, je confirme.
Macron. Donc là-dessus, on ne peut pas lui reprocher d'avoir, comme peut-être sur d'autres sujets, cela dit, retourner sa veste. Mmh. Ensuite, après, on peut parler de l'Assemblée, parce qu'il y a LR qui va voter avec lui, etc. Bon, ça, je vois que la parole circule. Mais simplement, je pense que le sujet des retraites, à mon sens, et je l'avais déjà exprimé sur ce plateau, moi, je suis toujours un peu étonné qu'on n'aille pas un peu plus dans l'innovation politique, puisque d'une profession à l'autre, d'une personne à l'autre, on ne peut pas faire du taille unique. Et on a des carrières aussi aujourd'hui. Alors, à une époque, c'était facile, parce qu'on avait, on faisait le même métier pendant 40 ans, et puis après on prenait sa retraite. On était tourneur fraiseur, ouvrier, patron, contremaître, ce que vous voulez. Aujourd'hui, les carrières sont en dents de scie, elles sont différentes. On peut avoir 3, 4, 5 métiers dans sa vie, on peut s'arrêter pour avoir des enfants, on peut s'arrêter pour prendre des années sabbatiques, on peut faire plein de choses, elles sont hachées. Et c'est en ce sens que moi je trouve que la réforme ne prend pas assez en compte l'innovation politique qu'on est en capacité de faire dans notre époque, et en particulier de faire, pour moi, je pousse vraiment le levier du libéralisme là-dessus, c'est du cas par cas.
À
un certain âge, on devrait évaluer la santé physique, la santé mentale et la volonté propre de chacun.
Alors,
est déterminée.
Faisons un tour de table. Faisons un tour de table, justement. C'est tellement important, je voudrais vraiment qu'on prenne le temps d'en parler. Fawzi Lelouch et ensuite John Barlou.
Alors, vous avez dit tellement de choses. Ça va être dur de.
Faut avoir l'esprit de synthèse ici.
Voilà, mais là, ça va être.
Non, mais si vous avez manifesté hier, comment vous avez vécu cette manifestation? Vous deux, vous y étiez, justement.
Non, mais surtout, les raisons qui poussent les gens à se mobiliser, c'est le sentiment de ne pas.
C'est quoi, vous avez changé de quoi? Qu'est-ce qu'on vous a raconté, Fawzi Lelouch?
De ne pas être. Voilà. De ne pas être compris.
C'est ça, c'est ça que je veux entendre.
Et d'avoir perdu cette valeur qui est normalement celle qui doit être au-dessus de tout, la valeur humaine. Voilà. Elle est perdue. On dirait qu'il n'y a plus que l'argent qui compte, il n'y a plus que le matériel, il n'y a plus que le profit, il n'y a plus que les intérêts. Non, le premier intérêt de tout ça, le premier profit, c'est l'humain.
Exactement.
Voilà. Et aujourd'hui, on devrait un peu plus penser à la partie humaine. Moi, j'ai une solution à tout ça.
Laquelle?
C'est à mon avis, de moins un peu plus d'égalité sociale, d'en donner moins à certains, de plus répartir, donc créer de l'emploi.
Oui.
Créer de l'emploi, il y aura plus ces problèmes de. Parce qu'il y aura des cotisations, parce que les gens évidemment travailleront, donc seront actifs, donc l'économie c'est généré, tu gagnes, tu dépenses. En même temps, revaloriser les salaires, mais en baissant les charges, parce que c'est un coût énorme pour ceux qui emploient. C'est pas chercher à faire des heures à des gens. On a atteint à 35 heures. Ben, ça nous va très bien. Si ça permet à tout le monde de pouvoir travailler, parce qu'il y a du travail normalement pour tout le monde, rémunérer les gens comme il se doit, et surtout leur apporter la capacité de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Exactement. Et quand une personne, elle est apte, elle est capable, elle est en capacité de vouloir le faire et elle veut bien le faire, de la laisser faire.
Oui.
Et je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Sauf que là, on a le sentiment d'être comme si on était un petit peu tiré par des ficelles, comme si on était des marionnettes, comme si on voulait exploiter au maximum l'ensemble du potentiel de l'humain jusqu'à temps que son avenir, c'est pas la retraite, c'est peut-être le cercueil ou la maladie et le machin. Bah alors, comme on a dit la dernière fois, faut pas tomber malade. Et t'as plus de chances d'aller être enterré dans un cercueil et finir ta vie dravataire, je dirais, mal, plutôt que de le finir bien. Alors que normalement, tous les outils qu'on a aujourd'hui, tout le modernisme, devrait nous permettre de nous soulager. On discutait tout à l'heure.
Bon, donc ça veut dire que
les femmes. Les femmes qui élèvent des enfants, qui veulent les garder, tout ça, ça devrait être compté déjà dans la retraite, parce que c'est du temps de participation. Les gens qui sont bénévoles,
les études,
qui sont bénévoles dans des associations, dans la contribution, dans l'humain, dans le partage, dans la fraternité, ça devrait être compté. Je te donne juste un exemple. J'ai été 15 ans dirigeant de 3 associations. J'ai eu jusqu'à 8 salariés. J'ai pu m'embaucher à 70% parce que j'avais la direction, que 2 ans et demi. Tout le reste, ça ne m'est pas compté. sur 15, j'ai 15 ans de perdu que je toucherai pas concernant ma retraite, alors que j'ai apporté des solutions, des services.
C'est pas faux.
Dans un endroit où
c'est pas faux, c'est pas faux.
Le
c'est
gouvernement, vrai, les élus, tout ça, l'ont pas donné. Donc
John
tout
Barlow.
Le monde doit prouver sa part.
Ouais. John Barlow, vous étiez à la manifestation, justement, comment vous l'avez vécu et qu'est-ce qui se disait et comment évidemment voyez-vous les choses?
Bah, rebondir. Alors après Fawzi, ça va être compliqué parce que Fawzi, il a tellement d'arguments et il dit tellement de choses que qu'on pense tous ici, je pense, sur le plateau, plus ou moins. Moi, je voulais revenir sur
Ménade
par rapport au gouvernement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement, il n'écoute rien. Quand il disait qu'ils font un peu moins les langues de bois, c'est pas forcément vrai. Je suis tombé sur une interview d'Aurore Berger ce matin sur RTL.
Elle n'est pas au gouvernement.
Enfin, elle fait partie. Bon,
elle est de la majorité.
Elle est parlementaire, elle est présidente du groupe.
Elle est de la majorité.
Justement, il faut distinguer
députée.
Les deux, à mon avis.
Elle est aujourd'hui, il y a plus de distinction.
Très proche de Macron.
Elle siffle à l'oreille des gouvernements.
Voilà, c'est une fidèle de Macron depuis le début. Hein.
En tout cas, si elle parle, c'est elle parle au nom de Renaissance.
Elle est clairement en train de dire que, de toute façon, quoi qu'il se passerait dans le pays, c'est eux qui avaient raison et c'est eux qui obtiendraient gain de cause. Quoi qu'il se passe, donc ils sont dans la provocation. Ils ont été dans la provocation avec les Gilets jaunes, ils ont été dans la provocation avec tout ce qui pouvait être mobilisateur de les jeunes, par exemple, qui faisaient des blocus dans les écoles. Moi, je me rappelle à mon époque, quand on faisait des blocus, on se faisait pas recevoir par la police avec des coups de matraque et des gazeuses. Bon, ça, c'est une nouvelle doctrine qu'il y a eu par rapport aux lycéens. Mais c'est la doctrine de Macron, en fait. La doctrine Macron, elle est répression, agression et surtout pas de discussion. Ils n'ont jamais reçu les Gilets jaunes. Macron ne s'est jamais excusé de quoi que ce soit, n'a même pas...
Mais là, on parle de la réforme des retraites,
ouais,
justement.
C'est justement pour rebondir. Donc, ce gouvernement, il est dans une idéologie de quoi qu'il se passe, c'est eux qui ont raison. Donc, déjà, après, si je peux... sur ça, on ne peut rien dire. Maintenant, en ce qui concerne les manifestations, elles ont été énormes, comme je disais tout à l'heure. Quand j'entends 80 000 personnes sur Paris, je me dis que ces gens-là, ils n'étaient pas là. Il y a eu trois parcours différents pour aller à Nation. Les 80 000, c'est selon la police. Hein.
On parle de 400 000.
La police a dit 80 000 sur Paris. Donc c'est les chiffres.
Hein. Le pouvoir.
Donc au final, même si trois parcours, il y a des gens qu'on n'a même pas pu voir tellement il y avait du monde. C'était impressionnant malgré les transports en commun et les multiples perturbations. Moi j'ai vu beaucoup de gens très énervés et c'était la dernière chance des syndicats. C'est-à-dire que si là les syndicats n'arrivaient pas à rassembler, je pense que les gens n'auraient plus trop cru aux syndicats. Et là où les gens sont déçus, c'est la date du 31. Moi, je ne comprends pas qu'on attend le 31 janvier pour continuer
c'est
quelque chose qui est maintenant bouillonnant. Donc demain, il y a une manifestation à Bastille à 14h. J'invite l'ensemble des gens qui sont toujours énervés, qui sont toujours en colère, à descendre dans les rues et aller manifester là où ils pondent.
Je remarquerai
après,
quand même...
Faut que j'ai le louche, ensuite après je donne la parole. Oui.
Juste pour dire que les gens étaient énervés hier, je les ai vus à bout, mais contenus. Ils ont quand même... ils se sont contenus. Voilà. C'est et ça, c'est important
c'est
de...
C'est vrai que...
C'est ce qui a fait le succès.
Attention, ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, aucun incident à déplorer.
Non, si, il y en a eu.
Il y en a eu quelques-uns.
Mais paraît-il, c'était hors hors convoi.
Non, c'était avant Bastille. Voilà, c'était avant Bastille et à l'arrivée à Nation.
En fait, ils ont coupé le cordon. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement de monde qu'à un moment donné, ils n'avaient plus la capacité humaine de faire partir tous les gens qui étaient à la République. Donc ils ont fait trois convois, c'est-à-dire qu'il y a un convoi qui est parti du boulevard principal jusqu'à Bastille, un autre convoi qui est parti boulevard Voltaire et un autre convoi qui est parti de l'autre côté, j'ai oublié le nom, mais qui ont tous le point de finale Nation.
Une question qui taraude tout le monde et qui se pose qui dans les esprits d'ailleurs. La rue peut-elle faire céder le gouvernement,
chers amis? C'est l'histoire qui nous le dit. Juste deux choses pour terminer sur les retraites, des solutions concrètes, il en existe. L'égalité salariale femmes-hommes par exemple, ça rapporterait des millions. L'imposition sur les revenus du capital, des millions également. Maintenant, sur la rue, moi, quand j'entends dire le légitimisme, mais excusez-moi, à l'histoire de France, depuis 1789, 1830, 1848, 1871, 1936, 1968, 1995, et j'en passe et des meilleurs, c'est la rue qui a parlé. Et si aujourd'hui, on a des acquis sociaux...
Première manif, ça s'est déroulé où?
C'est ça. Comment?
Première manif, ça s'est déroulé où?
Eh bien, notamment dans les centres de la contestation parisiens, nos belles places.
Non, je parle dans le monde.
Ah, dans le monde?
Aux États-Unis.
Possible, mais depuis que l'homme est homme, il se doit de lutter pour exister. Moi, maintenant, ce que je veux dire,
pour réclamer tout simplement, vous savez quoi? Les 8 heures.
Mais voilà. Et aujourd'hui les esprits sont rétrogrades.
Ça s'est passé aux États-Unis.
Et aujourd'hui, les esprits
sont rétrogrades. On le doit aux Américains. 8 heures. Les fameux 8 heures. La répartition, vous savez, du temps de travail des 24 heures. On a 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de loisirs.
Parce que les grévistes étaient là et parce que des gens luttaient. Juste une dernière chose. Pour répondre aux légitimistes et pour dire à ceux que c'est à ceux qui souhaitent que la démocratie parle. Moi, je donne un défi à monsieur Macron. Et aujourd'hui, il y a 9 Français sur 10 actifs qui sont opposés à la réforme des retraites. S'il est démocrate, s'il a confiance en lui, et s'il a raison au niveau économique, comme le dit le collègue qui est à côté, eh bien qu'il organise un référendum. Exactement. Et le peuple français tranchera de manière démocratique.
Mais il n'y aura pas de référendum, vous le savez très bien.
Eh bien, c'est la preuve. Eh bien, c'est.
Mais non. Parce que c'est la preuve. Il a droit à une clochette, lui.
Il dit que si c'est un démocrate, il doit laisser le. Il doit laisser
le. Il a droit à une clochette. Jessica Longuerre. Alors, est-ce que la rue peut-elle faire céder le gouvernement?
Seul non.
La rue peut faire céder le gouvernement si.
Si, en 95, elle a fait aussi.
Si, bien sûr.
Non, mais 95.
Oui, mais accompagné de blocages, de grèves, de.
Trois semaines.
Ah non, c'est pas ça la rue.
3 millions, 3 semaines.
Plus récemment, on a eu le CPE.
Attendez, juste Jessica. Il y a le CPE, oui, c'est vrai.
C'est bien évident. Il y a une organisation et il y a.
2005.
Et de ne pas céder. Ce qui tue, finalement, les revendications, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est les compromis. Et les compromis, c'est pas le peuple, non. C'est les syndicats,
non, c'est ceux les organisations. Voilà,
et c'est eux qui finissent finalement à faire que tout s'étouffe. Donc bien évidemment, tout peut se faire, mais encore faudrait-il qu'on ait l'adhésion de tout le monde. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit que c'est difficile entre syndicats de s'entendre sur une démarche, comment on va réussir à un moment à être unis devant
Ils s'accordent là, de toute façon.
Oui, et puis moi je fais confiance.
Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Alors il y avait d'abord Ménage au Chénir et ensuite Fawzi. Allez-y.
Simplement, l'histoire de France, on peut effectivement ouvrir nos livres très scolairement et regarder qu'il y a eu énormément de mobilisation et souvent avec succès. La rue, selon moi, est un catalyseur. C'est-à-dire, c'est le début, c'est l'étincelle. Aucun des progrès sociaux qui sont consécutifs à des mouvements sociaux, il y a aussi des mouvements sociaux pacifiques, moins, mais ils existent. Aucun de ces progrès sociaux n'a pu perdurer dans le temps, sur des dizaines d'années, des générations, sans être gravé dans le marbre de la loi. Et c'est en ce sens que je parlais de chaîne tout à l'heure. Naturellement, la rue se fait entendre. Naturellement, derrière, la réaction, avec la responsabilité de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, bon, en gros, c'est les syndicats et après toute la représentation. Ils ont une responsabilité maintenant, entre guillemets, d'avoir. Ils ont la légitimité de la rue qui existe en soi, formellement. Et derrière, le Parlement, parce qu'il y a l'Assemblée nationale, il y a aussi le Sénat, parce qu'oublions pas qu'on est sur quand même un régime, toujours pour parler scolairement, ça s'appelle du bicamérisme inégalitaire, en l'occurrence, puisqu'on a chambre haute, chambre basse, Sénat et Assemblée nationale, et c'est l'Assemblée nationale qui prime sur le Sénat, si on veut aller vraiment dans les livres de droit. Et cette chaîne-là, si quelqu'un, pardon, met la pète, effectivement, tout ça n'aura servi à rien si ce n'est perturber le quotidien de quelques-uns d'entre nous. Donc, absolument. On a une chaîne de responsabilité. Et ben, maintenant, au suivant.
C'est justement ce que.
Et il nous le rappelle.
Je me permettais de.
Il s'adressait de façon sous-jacente à Richie Thibault.
J'avais apporté une réponse.
Tous nos auditeurs.
Non, mais simplement pour dire qu'il a.
Attendez, Fawzi, le
Non, mais juste pour dire que pour dire que la loi, effectivement, elle a un rôle à jouer. Mais aujourd'hui, Macron, que fait-il? Et tout à fait, c'est l'aboutissement. Mais quand des progrès sociaux sont votés à l'Assemblée, durant les PLF et PLFSS, il y a beaucoup de progrès sociaux qui ont été votés par les majorités, par les députés d'outre-mer notamment. Et qu'a fait Macron? 49-3. Que va faire Macron pour la réforme des retraites?
49-3 a été utilisé par tout le monde, Fawzi Lelouch.
Ouais, donc moi j'alerte, une alerte. Voilà. Prenez bien conscience qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très important qui se joue, c'est l'avenir des corps intermédiaires. Voilà. Leur crédibilité, soit ils arrivent à aboutir à quelque chose et il y a la satisfaction des citoyens, ou alors ils sont obsolètes. Alors déjà, qu'il y avait une grosse méfiance sur les corps intermédiaires, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient syndicalistes, ceux qui s'assoient à la table des négociations parce qu'ils ont toujours tiré vers le bas, plutôt que d'arriver à des résultats. Aujourd'hui, l'avenir, là, c'est l'enjeu, quelque part, de leur avenir. Voilà, c'est-à-dire que là, aucun des deux, il faut qu'il se manque. Et moi, je suis curieux de voir comment ça va se dépatouiller, tout ça, là. Parce que, du coup, il y va d'une légitimité ou plus une légitimité. Parce que il y a encore énormément de gens qui espèrent, qui sont syndiqués, qui comptent sur, un changement de société un petit peu avec une vision plus humaine. Mais si là, ils n'obtiennent pas ces résultats et puis que les gens sont déçus, je peux vous dire que Les gilets jaunes, c'était de la rigolade.
Ce sera x 10, x 100.
Vous avez compris ?
Un chiffre voilà. Entre 10 et 11% des actifs qui se déclarent syndiqués.
Et finalement, c'est exactement ça.
En quelques secondes,
pour
finir ce qui vient d'être dit, moi je trouve qu'on a un président de la République, comme disait Ménade, qui a été réélu, c'est vrai. Mais moi je trouve que,
23% des
Français. Cette personne-là est arrogante, méprisante. Et quand on a un climat aussi anxiogène à l'heure d'aujourd'hui, avec une inflation démesurée qui va encore partir en vrille un peu plus tard, incessamment sous peu, qu'on a les deuxièmes sanctions qui vont tomber sur la Russie au mois de février, le 5 précisément, et que 70% du parc automobile français, diesel je parle, est exclusivement... le diesel qui arrive en France, ça vient de la Russie, il va couper les vannes, Poutine. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train déjà de dire à la télévision qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, les grévistes, attention. Non, c'est les deuxièmes sanctions qui vont tomber. Donc il y a un climat vraiment anxiogène. Les gens sont pas heureux de vivre. Moi, je vois, tout a augmenté. J'ai un bébé de 11 mois. Tout a augmenté. Tout est cher.
Eh ben on va en parler justement. On va en parler.
Le truc, c'est
il faut qu'on avance.
Oui, mais le truc, c'est que pour finir, je finis juste court. En gros, il y a tout ça dans ce pays et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de mettre sa réforme maintenant. Dans quel but ?
Eh ben, on en parle justement. Tout de suite après, le second sujet qui nous attend, vous savez, c'est celui du congrès du PS. Olivier Faure ressort vainqueur. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h21, avec Fawzi Loulouche, avec John Barlow, avec Ménade Ouchenir, avec Richie Thibault, et enfin, avec la seule femme qui s'impose au milieu de ces débatteurs, Jessica Longuer. Le congrès du PS, le sortant vainqueur, Olivier Faure, avec 50,83%. Mais surtout, que retenons-nous justement de... Alors ça y est, il est réélu. Richie Thibault, quel enjeu et qu'est-ce que ça montre ?
Alors, je me permettrai pas de dire que c'est un événement politique majeur parce que, ça va pas changer la vie des gens, pour reprendre avec ironie un slogan à Mitterrand. Néanmoins, je dirais simplement, parce que moi je suis pas adepte des querelles partisanes intestines, etc. Je dirais que sur le plan partisan et politicien, c'est très intéressant dans la mesure où l'échiquier politique reste stable. C'est-à-dire que la ligne à Olivier Faure, celle de la NUPES, eh bien, va maintenir la concordance politique et l'enjeu des forces politiques actuelles.
Ah, ça c'est sûr.
C'est-à-dire que finalement, l'inverse, c'est-à-dire l'élection de Nicolas Mayer-Rossignol, aurait fait partir en vrille, si je puis me permettre, la NUPES, et donc favoriser Macron, et donc l'aurait permis d'opter pour la dissolution. Et je pense, et je le dis de source sûre, les cadres de la Macronie ont tout fait dans le débat public ces derniers temps. On l'a vu avec leur prise de position, notamment celle de monsieur Gabriel Attal, ou encore d'Olivier Véran, ou d'Olivier Dussopt, pour soutenir la ligne de Nicolas Mayer-Rossignol, en disant que le PS vendait son âme à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'effectivement, ça les arrange, ça les aurait arrangé, du moins qu'il soit élu, que sa ligne anti-NUPES.
Pourquoi ça vous fait sourire, Ménade ?
Majoritaire.
Je repense aux récentes élections des différents partis. Donc LFI a changé de tête. Alors après, il y a eu des bisbilles internes, mais ça, c'est autre chose. Avec un certain succès. Europe Écologie Les Verts a eu des élections. Ils ont changé de tête. Avec, on va dire, un certain succès, puisque c'est pas contesté quand je dis avec un certain succès. LR a changé de tête avec monsieur Éric Ciotti. Le Rassemblement National a changé de tête avec monsieur Bardella. L'UDI a nommé monsieur Hervé Marseille. Et puis, les seuls qui se cassent le nez sur la ligne d'arrivée, c'est le PS français. Donc,
en termes. Il est vainqueur.
Hein?
Il est vainqueur.
Il
ne s'est pas cassé la gueule, il est vainqueur.
Je parle en termes de. Les deux ont revendiqué la victoire. J'ai regardé un peu. Je ne cache pas que ce n'est pas une élection que j'ai suivie heure par heure, peut-être contrairement à d'autres, mais j'ai regardé un peu la suite de l'élection. Les deux qui revendiquent la victoire, qui enchaînaient les conférences de presse en revendiquant.
Psychodrame. On parle de psychodrame.
Et ça, franchement, je trouve ça triste pour la pluralité des idées dans le débat politique français.
Mais on va beaucoup plus loin. On parle de soupçons. De froideur. D'irrégularité.
Oui.
Des militants qui se sont enfermés dans une salle.
A évoqué l'hypothèse de solliciter la justice pour un recomptage des voix. Bon, là, on est. Ça rappelle les grandes heures de l'UMP à l'époque de Fillon, Copé. Voilà. Donc
ça met deux éléments en exergue, si je peux me permettre. Il y en a un premier sur le plan géopolitique, je dirais, qui met en exergue aujourd'hui les tensions sur le système électoral. Et c'est très intéressant à étudier parce que quand on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, il me semble, si je dis pas de bêtises, enfin, lors de la dernière élection présidentielle, quand on voit ce qui s'est passé avec Lula et Bolsonaro au Brésil, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France à une toute autre échelle, on voit que le système électoral, il est extrêmement en tension. Et c'est assez révélateur de l'état politique qui est en vraie déliquescence du vieux monde. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup de tous les partis politiques et de leur mode de fonctionnement, mais il y a une chose qui me fait sourire. Pourquoi personne parle du mode de fonctionnement de Renaissance ? Renaissance, personne n'en parle. Mais il me semble que c'est le parti qui est le plus tordu en termes de démocratie interne. Et ça m'interroge.
Tout de suite.
Ça m'interroge.
Jessica Longuerre, l'enjeu du PS avec la réélection justement d'Olivier Faure. Est-ce qu'il y a véritablement un enjeu? C'était Nicolas Maillard-Rossignol.
Le premier enjeu, c'est qu'il y a un écart seulement, si je ne me trompe pas, de 400.
393 voix.
Voilà.
393.
Encore pire. Donc forcément, ça crée le doute.
Il a suivi Ménad, Ménad Ouchéni.
Il est venu. Et en fait, finalement, ça va impacter la question de la légitimité parce qu'en fait, finalement, on pourrait même penser, pourquoi pas, qu'il y ait une scission, pourquoi pas, au sein du PS. Puisqu'aujourd'hui, il y a au moins la moitié des partisans du PS qui n'ont pas voté Olivier Faure. Donc forcément, Olivier Faure n'incarne pas le consensus au sein même de son parti. Et c'est là où on connaît aussi très bien le PS. Entre les différents courants et les différents coups bas, eh bien, je pense que finalement, la suite de l'histoire, ça va s'annoncer très croustillante.
Juste pour compléter avec deux informations qui sont factuelles et concrètes.
Je disais, c'est un politicien, lui, ça y est.
Très sincèrement, en fait, moi, c'est pas ma chapelle, le PS. Par contre, ce qui me fait sourire...
L'âge d'Anthony, hein.
Non, mais
plus jeune qu'Anthony.
Ce qui me fait sourire, c'est de voir les Carole Delga, les machins bidules, les François Hollande qui empêchent le PS d'avancer sur le plan de la dynamique.
T'es bluffé, Anthony.
Et être mis en échec. Donc ouais. Voilà, moi, c'est pas ma chapelle, c'est pas ce qui va m'arranger, c'est pas ce qui va changer la vie des gens. Néanmoins, ça me fait sourire que de voir ces vieux gens, ces vieux éléphants, comme on les appelle, laisser la place à des jeunes, parce qu'au PS, il y a de jeunes potentiels avec qui
Préparez-vous, vous les jeunes. Préparez-vous. Emparez-vous, évidemment, du pouvoir. N'attendez pas qu'on vous le donne, Fawzi Lelouch.
Il y a même des anciens, comme Agnès.
Donc, comme il dit, ils ont bien décrit, il y a des arrachages de cheveux au sein des partis.
Ça s'appelle une guerre fratricide.
Mais c'est moche.
Le problème,
c'est souvent moche.
Le problème de quasi tous les partis, là, c'est un petit peu ce qui m'a empêché à moi de pouvoir rentrer dans un parti. C'est pour ça que je suis un partisan aujourd'hui, parce que j'ai pas trouvé ça et je trouve que c'est une image. Un peu arrière-gardiste qu'on veut plus voir, qu'on a déjà vu, je sais plus quand, c'est mercredi, je regardais l'Assemblée nationale, et à un moment donné, je regardais le visage des gens qui la représentaient, je me suis dit, mais pourquoi ils laissent pas la place, ces gens-là? Des vieux.
Exactement.
C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a rajeuni, non?
Mais lui, c'est un petit rôle.
Il avait rajeuni l'Assemblée, rajeuni. Et après, on lui a dit, il a trop rajeuni, donc il n'y a pas assez de.
Ça, c'est vrai.
Arrêtez, chers amis.
Beaucoup de députés devraient être à la retraite.
Les députés qui veulent.
Non, mais vous faites les choses comme ça, vous n'avez pas fini. Il y a des députés qui ont dépassé 64 ans.
Pourquoi ils ont pas la retraite? C'est pas qu'une affaire d'âge. C'est si tu as des gens.
On a tapé.
Si tu as des gens autour
de toi,
si tu as des gens autour de toi, Adil, et puis que tu leur donnes pas la parole, que tu les concertes pas, que tu leur demandes pas leur avis, et que tu décides pour eux tous de ce qu'ils vont dire, de la manière qu'ils vont le dire, comme un seul homme, à quoi ils servent d'être jeunes?
Totalement. Et puis mon cher Adil, exactement, toi qui es adepte de Pierre Bourdieu, il faut pas ignorer quand même que la diversité sociale à l'Assemblée, c'est quelque chose qui fait guise de sens. Et moi, ce que je voudrais dire simplement, sur le Congrès, dire que ces histoires, l'intestine de parti, pour reprendre une formule à Coluche, elles ne font pas avancer le schmilblick et la vie des gens au quotidien. Voilà, ça, il faut pas l'oublier et c'est la priorité.
En tout cas,
John.
En tout cas, juste pour terminer, l'abstention. Eh ben, quand on voit ça, on comprend pourquoi il est là.
Exactement.
Combien de temps, Anthony?
Vous avez quelques secondes, John Barlow. Allez-y.
Pour rebondir dessus, moi, le Parti Socialiste, je le vois d'un œil très, très, pas très bon. Parce que moi, quand j'ai entendu mon ennemi, c'est la finance, la trahison, elle a été encore plus immense.
Vous parlez de François Hollande?
François Hollande. Olivier Dussault, qui était au Parti Socialiste, qui combattait justement la réforme des retraites et qui maintenant veut nous la faire passer. Donc pour moi, tous ces gens-là, ils ont juste aucune étiquette ni aucun moral. Ouais. Ils sont juste là parce que la place est bonne.
Bon, bah merci à vous, merci, c'était passionnant.
Le discours pour conclure.
Merci, quel discours?
Celui dont on a parlé tout à l'heure, parce que quand on dit qu'il n'y a pas de misère sociale en France, il y a un grand homme, moi, qui m'inspire beaucoup, qui n'était pas communiste ni anticapitaliste, il s'appelle l'abbé Pierre, Henri Grouès.
Oui, 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 oui.
Et il disait les paroles suivantes, et je dis que c'est d'actualité. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec leur bonne figure, leur bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Mais je sais ce que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Je vais vous présenter Jimmy Dalidou.
Oui.
Voilà. Oui. Là, vous allez vous entendre avec Jimmy Dalidou. Je vous jure, deux rebelles. Deux rebelles, un syndicaliste, hein, révolutionnaire. Hein.
Comme le disait l'abbé, il faut s'occuper.
Merci à Jessica Elonguer. Merci Thibault. Merci à Melad Dochenir. Merci à Fawzi Loulouche. Merci bonsoir pour tout, en tout cas, hein, pour tout ce que vous avez fait. Merci à John Barlou.
Merci à Dil de
à la réalisation, c'était avec plaisir. C'était Anthony. On avait une jeune observatrice, justement, une future jeune journaliste. C'est Lorraine. Lorraine, ça va? Ça vous donne envie, tout ça?
Oui, ça va très bien. Merci.
Ouais. D'un regard, qu'est-ce que vous en retenez?
Bah, je pense que je verrai la radio différemment maintenant et c'était une très bonne expérience. Merci de m'avoir fait venir.
Eh ben, écoutez, moi, je te souhaite d'être une future journaliste.
Merci.
Vraiment, mais attention, hein, faut rien lâcher. Hein.
Ouais,
ça va être dur.
T'as entendu ce qu'il a
dit? Mais surtout, c'est quoi? Ne rien lâcher.
C'est ça.
Absolument. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il en a pour jusqu'à 80 ans.
À part si on lutte.
Allez, Bilal Nedman à partir de 20h, Vanessa 21h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, mais surtout, à lundi, avec autant de plaisir. Mes chers amis, on va le dire en cœur, mais surtout,
on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.